Donc, avant de vous présenter les conférenciers de ce soir, je vous rappelle donc la prochaine conférence sera notre dernière conférence de cette année. Et à cette occasion, comme l'année dernière, vous êtes chaleureusement invités à partager le verre des participants. Donc, à 21h, en sortant des conférences, on peut se retrouver, pour ceux qui le souhaitent, dans le hall d'entrée ici du bâtiment Waroquet. Alors, nous recevons aujourd'hui deux conférenciers. Laura Petrosino, qui nous rejoint pour la première fois à pas et que je suis vraiment très heureuse d'accueillir. Laura Petrosino nous parlera du chapitre 14 et pas 16, comme c'était indiqué avec une coquille dans le dépliant. Mais ça, je suppose que vous l'avez vu à partir du titre de son propos de ce soir, qui est « La femme plus vraie et plus réelle que l'homme ». Laura Petrosino est psychanalyste à Bruxelles. Elle a la particularité de recevoir en consultation en trois langues, c'est-à-dire en français, en espagnol et en anglais. Elle est membre de l'ACF Belgique et voilà, donc elle a cette particularité dans ses consultations. Nous recevons aussi Yves van der Weken, qui lui est avec nous depuis le début de pas à pas, je pense. Hein. Ça fait 6 ans, Yves. Et qui nous parlera aujourd'hui de sa lecture du chapitre 15 du séminaire sous le thème « Ce qui manque, une affaire de mal ». Alors, Yves van der Weken est psychanalyste à Tubize et à Bruxelles et il assure actuellement la présidence de l'ACF Belgique, dont plusieurs collègues sont membres. Et je lui ai demandé ce soir, avant d'entamer les conférences, de prendre la parole 2 minutes pour vous parler de ce que je vous ai envoyé dans le courant de l'après-midi. Vous ne l'avez peut-être pas encore lu, vous pourrez le lire à votre aise dans les jours qui viennent, qui concerne une pétition internationale en faveur de l'abord clinique de l'autisme. Donc Yves, je vais vous laisser la parole pour en dire 2 mots.
Oui, c'est une pétition donc qui... international qui est de l'initiative du nouvel institut psychanalytique de l'enfant et qui vient en réaction, au fond, en réponse à plusieurs initiatives qui commencent à faire série en France, en Belgique, visant à, de façon, je dirais, affichée, à interdire la psychanalyse, mais bien au-delà, à réserver, au fond, l'accompagnement du trouble de l'autisme à une orientation de prise en charge unique. Bon, alors, ça vise la psychanalyse, mais donc bien au-delà, et c'est dans cette dimension-là que l'Institut psychanalytique de l'enfant a décidé, alors que jusqu'à présent ils avaient plutôt affronté ces questions-là de façon sereine, de lancer en ligne une pétition. Il y en a d'autres d'ailleurs qui circulent sur la même question et qui demandent au fond à ce que cessent ces initiatives au fond qui visent à réserver, je dirais, et à légiférer dans des types d'accompagnement thérapeutique pour des maladies ou des pathologies aussi complexes et aussi multifactorielles, au fond, que celle de l'autisme. Ce qui a, je dirais, fait déborder le vase, vous lirez ça tranquillement, c'est des fuites parues dans la presse en France quant à un rapport qui serait publié de la Haute Autorité de la Santé qui viserait l'interdiction de la psychanalyse pour réserver donc l'accompagnement de l'autisme qu'à une forme de, non plus de thérapie d'ailleurs, mais de soutien éducatif, ce que la psychanalyse évidemment ne rejette pas, bien entendu. Voilà, alors l'ACF Belgique, dont j'assure la présidence actuellement, et la section clinique de Bruxelles ont décidé de soutenir cette pétition, et donc vous invite à en prendre connaissance et à la signer si vous le souhaitez.
Voilà, merci beaucoup pour ce cadrage de la situation. Et peut-être juste ce que je voudrais ajouter, mais Yves l'a dit, c'est de bien vous faire prendre conscience qu'on est vraiment au-delà d'un problème franco-français. On est vraiment sur un vent mauvais, si je peux dire, qui souffle bien au-delà des frontières françaises. Nous sommes en Europe et ailleurs tout à fait concernés.
Alors non seulement par ça, mais serait-ce encore franco-français? Serait-ce même franco-français dans un autre cadre? J'ai dû rendre une visite au chef du cabinet du ministère de la Justice cette semaine et qui nous a appris, au fond, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais que est répertorié dans le dernier rapport de la Sûreté de l'État les mouvements psychanalytiques comme étant de danger, représentant un danger sectaire, alors que dans la démonstration au fond du danger sectaire, aucune association psychanalytique n'est reprise. Et donc on a rencontré le chef de cabinet et la nouvelle ministre de la Justice à ce sujet, qui eux-mêmes se montrant étonnés, ont fait des recherches pour savoir comment cette mention-là avait surgi. Eh bien, si vous voulez savoir comment ça fonctionne au niveau de l'État, c'est il y a 10 ans quand... le Parlement s'est penché sur les dangers sectaires en Belgique. Ils ont simplement repris les termes de ce qu'il y avait dans le rapport du même type du Parlement français qui avait eu lieu 5 ans avant. Voilà donc comment des mentions se retrouvent comme ça d'un pays à l'autre. Donc effectivement, ce qui se passe en France nous concerne, si pas maintenant, bientôt.
Voilà. Merci beaucoup. Et donc, je passe la parole à Laura Petrosino pour ce chapitre que nous allons voir aujourd'hui, donc le chapitre 14.
Merci, Andrew. Donc, avant tout, je voudrais dire que je suis heureuse aussi d'être ici, et non seulement parce que je trouve cette initiative des Anne formidable, mais aussi parce que j'ai eu la chance de pouvoir étudier ici, à l'Université de Mons, avec les professeurs Armeni et Fouché. C'est avec eux que j'ai fait un master en psychanalyse. Et à propos de les stades de miroir et les schémas optiques chez Lacan. Donc c'est pour moi un plaisir d'être ici à Mons. Et mon accent est très fort, donc si vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, élevez la main. Donc, la phrase que j'ai à commenter, c'est « Dans l'ensemble, la femme est beaucoup plus réelle et beaucoup plus vraie que l'homme. » Cette phrase se trouve à la page 223, dans le chapitre 14, qui s'intitule « La femme plus vraie et plus réelle ». Ce chapitre formait partie d'une section que Chagall Miller a nommée « L'angoisse entre jouissance et désir ». Les chapitres que j'ai à commenter, donc « La femme plus vraie et plus réelle », succède à un autre qui s'appelle « Aphorisme sur l'amour ». Avant de parler de la femme par rapport à l'angoisse, donc, Lacan amène la question de l'amour, l'amour par rapport à l'angoisse. Dans cette section dont il s'agit de situer l'angoisse entre la jouissance et les désirs, Lacan présente donc dans un premier moment l'amour, dans un deuxième la femme, et enfin dans un troisième temps, ce qui correspond à une affaire mâle, que c'est ce que Yves va commenter. Pourquoi Lacan parle-t-il de la femme à ce moment-là? Il commence son séminaire sur l'angoisse en disant à la page 24 que si la pratique de la psychanalyse mérite un nom, ce serait le nom de érotologie. Puisque dans la psychanalyse, ce dont il s'agit, c'est du désir. Plus loin, dans le chapitre 17, à la page 265, Lacan reviendra sur cette question en expliquant que s'il a choisi de procéder cette année à partir de l'angoisse, c'est parce que ce chemin revivifie toute la dialectique du désir. Ce qu'il voudrait travailler, Lacan, dans ses séminaires, c'est la fonction de l'objet par rapport au désir. Donc. Mais de quel désir s'agit-il? Le désir que Lacan essaye de formuler ici, ce n'est pas le désir en tant que désir de quelque chose. Par exemple, je désirerais avoir ceci ou cela, être ceci ou cela. Au contraire, le désir que Lacan essaie de conceptualiser tout au long de ce séminaire, c'est un désir qui est fondamental dans l'expérience d'une analyse, et c'est ce qu'il appelle le désir de l'analyste. Le désir de l'analyste, donc, n'est pas un désir de quelque chose ou de quelqu'un. Nous y reviendrons là pour voir qu'est-ce que c'est, justement. Alors, si vous allez lire le chapitre 13, c'est-à-dire celui qui précède, tout à la fin, Lacan nous donne une clé précieuse, une boussole, pour lire les chapitres suivants. Celui dont il est question aujourd'hui. Il dit que s'il pouvait donner un titre à ce qu'il énoncera la prochaine fois, ce serait quelque chose comme des rapports de la femme comme psychanalyste avec la position de Don Juan. Nous avons donc une idée avant de commencer la lecture du chapitre, c'est qu'il ne s'agira pas de la femme en tant que telle, mais de la femme en tant qu'analyste. La femme, dit Lacan, comprend très très bien ce qu'est le désir de l'analyste. Il dit ça dans la page 208. Lacan propose ainsi, afin de saisir qu'est-ce que c'est désir, le désir de l'analyste, Lacan nous propose d'aller étudier la position féminine, parce que la femme saurait quelque chose de qu'est-ce que c'est le désir de l'analyste en tant que femme. Autrement dit, si le chapitre 14 répondrait à une question, ce serait, à mon avis, quel est le rapport entre la femme, la position de l'analyste et Don Juan? Ou en quoi le désir de l'analyste a à voir avec la position de Don Juan? Ou encore, qu'est-ce que la position de Don Juan fait que la femme soit plus vraie et plus réelle? Ce chapitre, donc, est un chapitre très clinique. Non seulement parce que Lacan amène la question du désir de l'analyste, qui est au centre de l'expérience analytique, mais aussi parce qu'il amène un cas à lui. Et aussi un texte de Lucy Tower qui s'appelle « Contre-transfert », dont il est question de quatre cas. Donc il y a les cas de Lucy Tower, les cas de Lacan et la question du désir de l'analyste. Il prendra deux de ces quatre cas de Lucy Tower, afin d'élucider avec elle la différence entre le contre-transfert et le désir de l'analyste. Le contre-transfert est un concept qui est présent tout au long de ces séminaires, de ces séminaires 10, où Lacan est en dialogue avec ses collègues de l'époque autour des textes d'analystes anglo-saxons qui ont beaucoup travaillé la question du contre-transfert. Les textes que Lacan commente dans ces chapitres, donc celui de Lucy Tower, font partie d'une série de textes des années 50 où certains analystes anglo-saxons sont en dialogue avec les orthodoxes freudiens comme Altman. Comme Jacques Alain Miller explique dans son cours de l'orientation lacanienne de l'année 2002, en fait, Jacques Alain Miller a travaillé la question du contre-transfert, spécialement dans ses cours de 2002, particulièrement dans les classes 6, de 6 mars et 13 mars. Donc Jacques Alain Miller explique que dans la position orthodoxe de Altman, il y avait une réduction à zéro de l'individualité de l'analyste afin de protéger le statut de l'inconscient. C'est dans l'idée que l'inconscient est déjà là, qu'il est inscrit comme une réalité objective et que l'analyse, la cure, doit donner cet inconscient déjà là l'occasion de se révéler, de se manifester de la façon la plus pure qu'il soit possible. Ce réalisme de l'inconscient impliquait que l'analyste arrive à se mettre hors du champ de l'expérience afin de ne pas polluer, parasiter les champs d'expérience qui doivent permettre à l'inconscient de Shala de se manifester. C'est à ce titre que l'orthodoxie allemagne pouvait prétendre donner à la psychanalyse un statut de science. Donc, les psychanalystes post-freudiennes orthodoxes avaient cette idée de que la individualité, la subjectivité de l'analyste devait être réduite à zéro. Dans les années 50, quelques analystes anglo-saxons comme Paula Heyman, Margaret Little, Barbara Lowe et Lucy Tower s'inscrivent dans un courant qui essaie de reconsidérer les statuts donnés au contre-transfert par les orthodoxes freudiennes. Toutes ces femmes proposent de s'en servir de ce que l'analyste ressent face à son patient. Autrement dit, la subjectivité de l'analyste entre en jeu comme un facteur important dans la cure. C'est Paula Heyman qui propose la phrase célèbre « Dans la psychanalyse, la situation analytique est avant tout une relation de deux personnes. » Donc elle introduit la question de la relation qui n'était pas du tout présente chez les orthodoxes freudiens qui parlaient de la subjectivité zéro de l'analyste. Donc, Lacan de sa part fait dans ce séminaire, dans cette séminaire disent, un retour à Freud qui considérait les contre-transferts essentiellement comme un obstacle qui devait être traité, si nécessaire, dans l'analyse de l'analyste et qui n'avait rien à dire à propos du patient. Dans les chapitres dont il est question aujourd'hui, Lacan commente le texte de Lucy Tower afin de montrer donc la différence entre les contre-transferts et les désirs de l'analyste. Parce que même si le texte de Lucy Tower s'appelle les contre-transferts, Lacan essaye de mettre en lumière le fait que sans le savoir, ce qui est en jeu dans la position de Lucy Tower, c'est le désir de l'analyste. Je reviendrai sur ça. Avant d'entrer dans les chapitres, donc, je dirais que je vous propose avec Lacan d'élucider le rapport entre les désirs, donc la femme, et la position de Don Juan, afin d'établir la différence entre les désirs de l'analyste et les contre-transferts. Et donc, une fois que j'essaierai de parler de ça, je reviendrai sur la question, sur la phrase dont il est question, la femme est plus vraie et plus réelle. Donc, Lacan amène, j'avais dit, un cas à lui, d'une femme. C'est dans la page 219. Une femme qui lui dit un jour que son mari la délaisse depuis un peu trop longtemps pour qu'elle ne le remarque pas. C'est alors qu'elle s'exprime en disant que peu importe pour elle qu'il la désire, pourvu qu'il n'en désire pas d'autre. Cela, nous dit Lacan, ne peut prendre sa valeur que dans les associations qui constituent son monologue. Cette femme, qui a une sexualité normale, témoigne de ce qui se produit pour elle si, alors qu'elle est par exemple au volant, surgit l'alerte d'un mobile qui la fait monologuer quelque chose comme « Dieu, une voiture », eh bien, inexplicablement, poursuit Lacan, elle s'aperçoit alors de l'existence d'un gonflement vaginal. Elle note par ailleurs que le phénomène vient répondre au surgissement dans son champ de n'importe quel objet, tout à fait étranger en apparence à l'espace sexuel. Cet état qui n'est pas désagréable, dit-elle, qui est plutôt de la nature de l'encombrant, c'est de lui-même. Donc, quand elle voit un objet qui apparaît soudainement, elle ressent un gonflement vaginal. Là-dessus, en nous prévenant que cela qu'elle va dire maintenant n'a rien à voir avec ce qu'elle venait de dire, elle ajoute que chacune de ses initiatives le sont dédiées à Lacan, à son analyste. Elle dit « dédiée mais pas consacrée ». Pourquoi pas consacrée ? Parce que ce n'est pas pour lui, dit-elle, qu'elle fait ça. mais plutôt à cause de son regard. C'est son regard, le regard de l'analyste, qui l'aide à faire prendre à chaque chose un sens, dit-elle. Alors, elle enchaîne en parlant de son premier amour. Il s'agissait d'un étudiant dont elle fut vite séparée, mais avec lequel elle restera en correspondance. Elle dit que tout ce qu'elle lui écrivait était un tissu de mensonges. Elle crée fil à fil un personnage, ce qu'elle désirait être à ses yeux, qu'elle n'était d'aucune façon. Là-dessus, elle revient à ce qu'elle fait à l'usage de Lacan, en disant que c'est tout à fait à l'opposé. C'est qu'avec Lacan, elle s'efforce à être toujours vraie. Elle n'écrit pas un roman quand elle est avec lui. Elle l'écrit au contraire quand elle ne l'est pas. Donc, pourquoi Lacan amène ces cas à ce moment, quand il parle de l'angoisse et du désir? Qu'est-ce que ces cas nous enseignent? Tout au long du séminaire 10, Lacan introduit la notion de l'objet petit a. L'objet petit a est tout ce qui résiste, nous dit Miller, à toute assimilation à la fonction du signifiant. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne puisse se trouver dans ce qui s'est dit. L'objet petit a peut s'extraire de ce qui a été dit. Même si à proprement parler, il ne peut pas être dit en tant que tel, pourvu que son statut est autre que celui du signifiant. Cette patiente donne un exemple de ce qui est l'objet petit a regard. L'objet regard n'est pas l'œil. Il se trouve là où elle dit qu'elle fait pour l'autre. Qu'elle est à ses yeux. C'est quand elle parle de ce qu'elle est dans les yeux de l'autre ou dans les yeux de l'analyste. C'est quand elle parle de ce qu'elle est dans les yeux de l'autre ou dans les yeux de l'analyste que l'objet petit a regard est présent. Il dit aussi que son analyste apparaît en tant que témoin. Dans cette vignette, on voit comment l'analyste puisse être présent en tant qu'objet, regard dans ce cas. Ce qui intéresse cette femme, donc, c'est d'être ou de ne pas être ce qu'elle suppose que l'autre désire d'elle. Lacan explique ainsi que c'est le désir de l'autre qui l'intéresse. Son désir n'est pas donc lié au manque d'un objet, c'est-à-dire ce n'est pas qu'elle désire un objet qui le manque. Ce n'est pas le désir d'un objet perdu qui est en question, sinon ce qu'elle est dans le désir de l'autre. C'est plutôt de l'ordre de l'être et non pas de l'avoir. La femme, nous dit Lacan, elle ne manque rien. Et ça vient, en fait, pourquoi ça a besoin d'être dit, en fait? Parce que ça paraît une évidence. Mais pourquoi ça a besoin d'être dit? Parce que dans la communauté psychanalytique, la question du pénis naïd a été présente depuis le début, c'est-à-dire l'envie des pénis, supposant que la femme envie le pénis de l'homme qu'elle n'a pas. C'est-à-dire qu'elle voudrait avoir le pénis de l'homme. Donc, Lacan, en disant que la femme ne manque rien, vient répondre à cette question du pénis naïd. Bon, je vais les appeler. Et donc, maintenant, je parlerai de la question de Don Juan. Je reviendrai après à propos de la femme. Après, je ferai un retour. Donc, Don Juan. Pour parler de Don Juan, je vais prendre appui sur un texte de Chagall à Miller, que je vous recommande, c'est très bien. C'est un texte sur l'amour, et qui s'appelle « Causerie sous l'amour ». Je sais pas si... Il est paru dans une revue qui n'existe plus, qui s'appelle Cahier Association de la cause freudienne et de Val-de-Loire et Bretagne. C'est le numéro 10 de l'année 1998, les pages 7 à 28. C'est un article formidable à propos de l'amour. Donc, je prends ça dès cet article à la question de Don Juan. Chagall Miller, donc, dans ce texte, fait mention à Don Juan pour dire que c'est un homme qui fait exister la femme. C'est-à-dire qu'il suffit d'être une femme pour être désirée par lui. C'est comme l'exemple d'un homme qui peut reconnaître chaque femme comme désirable, c'est-à-dire comme un homosexuel masculin de femme. De même qu'un homosexuel masculin peut être beaucoup moins exigeant sur son objet d'amour qu'un hétérosexuel, Don Juan agit avec chaque femme comme un homosexuel masculin avec les hommes. C'est-à-dire qu'il suffit que la femme soit une femme pour que Don Juan s'intéresse. Cela va dans le sens contraire au sens commun. Parce qu'on dirait Don Juan est très désirant parce qu'il est avec beaucoup de femmes. Mais ce que Chagall Miller nous dit, c'est qu'en fait, Don Juan ne désire pas du tout. Parce que n'importe quelle femme le convient. Donc, Don Juan est un homme désirant puisqu'il est avec nous, n'est pas un homme désirant, donc, parce qu'il est avec n'importe quelle femme qui s'interpose sur son chemin. Don Juan ne désire pas du tout. Il désire toutes les femmes, et cela équivaut à dire qu'il ne désire aucune parmi elles. Don Juan n'est pas donc à la place du sujet qui désire, mais plutôt à celle de l'objet. Lacan dira l'objet absolu. C'est pour ça que Lacan dit qu'il s'agit d'un homme à qui il ne manque rien. Pourquoi ? Parce que seulement quelqu'un qui manque de quelque chose désire quelque chose. Mais attention, désire dans le sens, ça je reviendrai, mais désire dans le sens de désirer quelque chose. C'est-à-dire un objet qui serait là et qu'on le désire. Ça n'est pas du tout la même chose que le désir de l'analyste. Donc, quand on dit que Don Juan n'est pas désirant, ça veut dire qu'il n'est pas désirant dans le sens du désir de quelque chose. C'est-à-dire, il ne manque rien, donc il ne désire rien. Dans ce sens-là. Pourquoi Don Juan est un rêve féminin ? Parce que Lacan dit que Don Juan est un rêve féminin. Parce que la femme, dit Lacan, s'angoisse face au désir de l'autre. Et quand il arrive qu'elle se sent vraiment être l'objet au centre d'un désir, eh bien, croyez-moi, nous dit Lacan, c'est là qu'elle fuit vraiment. C'est maintenant que je vais aller donc voir avec vous les textes de Lucy Tower que Lacan amène. Donc, ce texte de Lucy Tower est issu d'une conférence à propos du contre-transfert donnée aux États-Unis dans la Société psychanalytique de Chicago en mai de 1955. Elle commence par une partie théorique dans laquelle elle parcourt le concept de contre-transfert tel qu'il est compris à son époque. Et après, elle amène tous les phénomènes qui ont à voir avec les contre-transferts. Et ensuite, elle amène ce qui constitue la partie clinique, 4 cas. Donc, dans son texte, dans son cours, Miller, quand il parle des contre-transferts, Miller, en fait, il fait référence au premier cas de Lucy Tower, que c'est une femme. Mais Lacan, il va faire référence aux deux hommes. Et en fait, surtout pour se concentrer sur le premier. C'est-à-dire, le deuxième homme est amené surtout pour montrer que Lucy Tower amène ces deux hommes en disant il apparaît très similaire au début. C'est-à-dire la façon dont il se présente à l'analyse, c'est avec un peu la même phénoménologie. Après, l'analyse se développe de façon complètement différente pour tous les deux. Et donc, Lacan va se centrer, en fait, sur les premières. Que c'est là où la question de la contre-transfert, du contre-transfert, est amenée pour montrer que Lucitao montre que ça l'a servi à quelque chose. Mais bon, je vais les lire avec vous. C'est important qu'un parcours... Combien de temps j'ai ?
Un peu plus d'un quart d'heure.
D'accord. Donc, c'est la page 225. Donc, Lacan dit, elle a deux hommes en analyse, deux patients. Ce sont tous les deux névrosés d'angoisse. Ces deux hommes ont eu, comme il convient, quelques difficultés avec leur mère et avec leur sœur aussi. Avec ces deux hommes, nous dit-elle, j'étais parfaitement au fait de ce qui s'est passé avec leur femme, et nommément, dit-elle, qu'il était trop soumis, trop peu hostile, et en un sens trop dévotieux, et que les deux femmes, nous dit-elle, car elle était, elle, entre des pleins pieds dans l'appréciation du point de vue avec l'orgognette, que les deux femmes étaient frustrées par ce manque d'une suffisamment non-inhibited masculine assertiveness, d'une façon suffisamment non inhibée de s'affirmer comme homme. En d'autres termes, ils ne font pas assez semblant. Nous entrons là dans le vif du sujet et là, son idée sur cette affaire. Donc, elle introduit les deux patients en montrant surtout en quoi ils sont pareils. Quant à elle, bien entendu, sans savoir ce qui risque là-dedans de la pitié, elle se sent elle-même toute protective, un peu trop protective. Donc c'est ça, la position de Lucy Tower est une position protective. Dans le premier cas, elle est protective avec la femme de son patient parce qu'elle croit qu'elle est psychotique et qu'elle va déclencher. Et donc, même s'il ne s'entend pas bien dans le couple, elle essaye de protéger cette femme. Donc, tous les deux la fatiguent, dit Lucy Tower, tous les deux patients. La fatigue par leur marmottement, leur arrêt dans la parole, leur façon de se répéter, leur minutie. Enfin, elle est analyse tout de même, et ce qu'elle remarque chez les premières, c'est sa tendance à l'attaquer, elle, dans sa puissance d'analyste. Tout spécialement s'agissant de son premier patient, elle fait attention à ce qui se passe du côté de sa femme. Elle veille sur celle-ci un peu plus précisément peut-être. Quand elle apprend que l'épouse fait un petit accident psychosomatique, elle se dit que ce n'est pas mal, qu'elle craignait que cette femme ne dérive un peu vers la psychose, mais que voilà une angoisse bien fixée. Donc à ce moment-là, Lacan se rend compte qu'en fait, Lacan et Lucy Tower se rendent compte que la femme de son patient n'est pas psychotique comme elle avait cru. Mais par contre, dit-elle dans le texte, parce que Lacan va très vite, dans le texte de Lucy Tower. Mais Lucy Tower, dans son texte, explique bien qu'en fait, à ce moment-là, à la place de changer de position par rapport à son patient, elle continue à faire la même chose, elle ne veut pas s'empêcher de protéger cette femme. Et puis, dit Lacan, elle n'y pense plus et la même situation se poursuit. Donc, elle ne change pas sa position, Lucy Tower, à partir du moment de l'accident psychosomatique de la femme de son patient. Donc, l'analyse n'avance pas. L'analyse de son patient n'avance pas. Un an après, il y a quelque chose qui se passe, que là, quelque chose change. Elle dit, Lacan dit, qu'est-ce qui va déclencher les mouvements et faire avancer les choses? C'est un rêve, nous dit-elle, qui lui arrive à elle, l'analyste, et par où elle s'aperçoit qu'il n'est peut-être pas si sûr que ça, que ça aille si mal du côté de cette épouse. Dans les rêves, cette femme l'accueille, elle l'analyste, excessivement bien. Elle lui montre de toutes les façons qu'elle n'a aucune intention de torpiller l'analyse de son mari, ce qui était jusque-là dans les présupposés de l'affaire. et qu'elle est donc toute prête à être avec l'analyste de son mari dans une disposition que nous appellerons, pour traduire l'atmosphère du rêve, coopérative. Elle comprend qu'il y a quelque chose de tout entier à réviser dans sa conception de son patient, que ce type cherche vraiment dans son ménage à faire ce qu'il faut pour mettre sa femme plus à l'aise. Autrement dit, que le désir du bonhomme n'est pas si à la dérive que ça, que le petit gars se prend quand même au sérieux, qu'il y a moyen de s'occuper de lui. En d'autres termes, qu'il est capable de se prendre au jeu, de se prendre pour un homme, ce dont on lui refusait jusque-là la dignité. Donc c'est à partir de ce rêve que Lucy Tower a, où elle rencontre la femme de son patient, qu'elle se rend compte qu'en fait, elle avait jusque-là protégé cette patiente et que finalement, elle avait cru à ce que son patient lui disait à propos de sa femme. C'est-à-dire, le patient parlait mal de sa femme à Lucy Tower pour que Lucy Tower ait cette idée de que la femme était agressive avec lui, il se mettait en son position de victime. Et donc, à ce moment-là, Lucy Tower se rend compte qu'elle a cru à son patient. Quand elle a fait cette découverte, quand elle a réaxé sa réaction au désir de son patient, quand elle s'est aperçue qu'elle a méconnu jusque-là où les choses se situaient, c'est là qu'elle peut vraiment faire avec lui une révision de tout ce qui jusque-là s'est joué avec elle dans les leurs. Les revendications de transfert se découvrent avoir été elle-même une imposture. Et à partir de ce moment-là, nous dit-elle, tout change. Il faut la lire pour comprendre que c'est à partir de ce moment-là que l'analyse devient particulièrement dure à supporter pour elle. Tout se passe, dit-elle, au milieu d'un orage de mouvements dépressifs et de rage nue, comme s'il me mettait à l'épreuve, moi l'analyste, dans chacun de mes plus petits morceaux. Donc, c'est à ce moment-là où elle découvre qu'elle a cru à son patient, où elle met ça sur la scène, le cita où elle dit à son patient, en fait, vous avez parler de votre femme, mal de votre femme, mais en fait, c'est pas si mauvais que ça, etc. Elle le dit. Et donc, à ce moment-là, l'analyse commence à avancer, mais par contre, le patient devient très agressif, très dépressif, très en colère avec elle. En fait, Lucy Tower dit, l'affect arrive sous la scène de l'analyse. L'affect apparaît sous la scène de l'analyse. C'est-à-dire, le patient est en colère dans l'analyse même, avec elle, il est très agressif. Donc, Lacan nous dit, d'une part, que cette agression du patient, c'est une quête sadique qui vise l'objet. Et d'autre part, que ce n'est nullement être masochiste que de se mettre dans la ligne par où passe la recherche de l'objet sadique. C'est-à-dire la position que Lucy Tower prend. Maintenant, le problème, c'est que pour Lucy Tower, l'analyse avec ses patients devient insupportable. Et elle a un phénomène de contre-transfert qu'elle appelle carry-over, qu'en français, c'est report. C'est-à-dire qu'elle continue à penser à propos de son patient quand elle n'est plus avec son patient. Qu'elle ne peut pas oublier son patient, que ça lui revient tout le temps. Et ça devient insupportable. C'est à ce moment-là qu'elle part en vacances, Lucy Tower. Au début, elle continue à penser de son patient pendant quelques heures. Et à un moment donné, elle ne pense plus à propos de son patient. Elle oublie tout ça, complètement. Et elle dit, cette affaire ne m'intéresse absolument pas. Finalement. Et c'est là, à ce moment-là, que Lacan nous dit, c'est à ce moment-là qu'elle est véritablement dans la position mythique des plus libres et des plus aériennes d'un joint, au sortir de la chambre où il vient de faire les siennes, des siennes. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là où Lucy Tower oublie son patient. Ça ne l'intéresse aucunement. Elle se détache de ça complètement. Qu'elle a cette position mythique que Lacan dit de Don Juan, c'est-à-dire que tout cela ne l'intéresse pas. C'est à ce moment-là que le désir de l'analyste entre en jeu. C'est donc parce que la femme ne manque rien, nous dit Lacan, qu'elle est plus libre par rapport au désir. N'importe quoi est bon pour tenter la femme, nous dit Lacan. Elle se tente en tentant l'autre. C'est donc le désir de l'autre qui l'intéresse. Et si l'homme est dans une position de sujet à propos du désir, c'est-à-dire il désire quelque chose, dans le sens du désir de quelque chose, la femme est plutôt à la place de l'objet. C'est-à-dire, elle se fait désirer. Comme au Don Juan, elle ne manque rien. Et c'est dans ce sens-là qu'elle est plus réelle. Lacan nous dit, au réel, il ne manque rien. Moi, pour ça, je vous fais une petite... Je vais aller là. On dit là, il ne manque rien. Non. Qu'est-ce que je fais? Là, il manque quelque chose. Le numéro 3. C'est-à-dire, dire que la femme manque quelque chose, c'est plus ou moins comme dire, par exemple, qu'une plante manque une oreille. C'est-à-dire, la plante n'a pas une oreille, donc elle ne manque pas l'oreille. Ça ne veut pas dire qu'elle a une oreille, c'est-à-dire la femme n'a pas. Donc il ne faut pas comprendre, ne pas manquer avec avoir. Ce n'est pas que la femme a, c'est qu'elle ne manque pas, parce qu'elle n'est pas à avoir ça. Si vous comprenez. Que nous enseigne Lucita à propos du désir de l'analyste? Elle montre bien que pour qu'il y ait du désir de l'analyste, elle doit être dans la position dans laquelle tout cela ne l'intéresse absolument pas. C'est-à-dire qu'elle ne manque rien. Que quelque chose nous intéresse quand elle nous manque. Cela ne la préoccupe pas. Autrement dit, elle n'est pas là en tant que désirant et pourtant manquant, en tant que sujet. Parce que le désir de l'analyste, ce n'est pas le désir de quelque chose ni de quelqu'un. C'est un désir qui est à la place de la cause. Et c'est ce qui permet que l'objet dont il est question, pour un patient, puisse surgir à la place de l'analyste. Comme le cas de Lacan, celui que j'ai commenté au début, montre. C'est le désir de l'analyste qui permet à cette patiente, la patiente de Lacan, que l'objet regard surgisse dans la scène de la séance. C'est le regard de Lacan, le regard de l'analyste qui est en jeu. Voilà.
Merci beaucoup, Laura.
Pas bien.
Donc, on a pris l'habitude maintenant de poser les questions à la fin des deux exposés. Et donc, je vais proposer à Yves d'enchaîner directement donc sur le chapitre 15, la séance 15 du séminaire, ce qui manque, une affaire de mal.
Alors, la formule est vraiment... La formule est heureuse parce que vous allez voir que, à la fois de l'autre côté des formules de la sexuation, les choses vont se répondre. Et ce que Laura a apporté vous servira, j'espère, à comprendre mieux. Alors, ce qui manque, une affaire de mal. C'est donc à partir de ce titre. Je vais donc partir de ce titre. Enfin, c'est un titre dont il faut prendre la mesure, déjà, d'un point de vue psychanalytique, du renversement de perspective vraiment qu'il convoque. C'est ce que Laura disait. Et je vais tenter d'essayer d'en rendre raison à partir de la dialectique précise de sa formule, dont est extrait le titre. Alors, j'ai pas noté, j'ai oublié. J'ai pas noté à quelle phrase c'est. Mais le titre est issu d'une phrase rien plus complète à propos justement d'un analysant de Lucia Tower dont Laura vous a parlé, où Lacan dit ce qu'il cherche, donc un homme, cet analysant, c'est moins fille, ce qui lui manque à elle, donc à son analyste. Mais ça, précise Lacan, donc ce qui lui manque à elle, à son analyste, ça, donc ce qu'il cherche, c'est une affaire de mal. Donc il y a là une dimension, si pas dialectique, du moins quelque chose qui, pour cet analysant, et que Lacan va évidemment élever à une question pour l'homme, s'instaure dans la dimension de leur relation à une elle, je dirais, avec ce qui, disons, pour un homme, vient fort office de partenaire féminin, sans bien sûr que ça doit nécessairement être incarné par une femme. Mais en tout cas, il y a là une dimension où Lacan pointe que l'homme, cet homme-là, cherche chez son partenaire quelque chose, ce qui lui manque, et que ça, c'est son affaire. C'est dans cette dialectique-là que ça s'inscrit. Alors, dans ces pages, Lacan permet d'appréhender une dimension absolument neuve dans la psychanalyse à ce moment-là, de la question de la masculinité et de la clinique de l'obsessionnel. C'est ça qui m'intéressait, donc dans ce chapitre « Une affaire de mal ». Par ailleurs, Lacan donne dans ses pages des indications précises, furtivement, mais précises, des indications précises pour la direction de la cure pour un sujet obsessionnel. C'est ces trois points-là que je vais essayer de déployer. Donc, je vous disais qu'il faut prendre la mesure du renversement de perspective que ça implique de dire ce qui manque, c'est une affaire de mal. C'est un renversement essentiel. Un virage à 360 degrés, dit d'ailleurs Jean-Calin Miller, une inversion sensationnelle de la doxa analytique qu'opère Lacan là. Ce qui suffit déjà à démontrer que la théorie analytique est une théorie qui se fonde d'une pratique, celle de la cure analytique. Remarquons, je trouvais ça vraiment précis, que c'est à partir d'un récit de cure que Lacan extrait ce renversement. Alors ça, comme orientation, c'est précis. Donc la doxa analytique est toujours un mouvement, l'un cas n'étant pas l'autre, le cas d'une époque n'étant pas ceux d'une autre époque, les symptômes étant en fonction des signifiants maîtres, la théorie analytique n'étant rien figée, et se doit donc d'épouser les contours de cela. Et donc Lacan, ici, sans le mettre en pratique en tant que tel, mais néanmoins s'appuie sur un cas précis pour, à partir de là, opérer un renversement complet de la doxa analytique. Donc c'est un avertissement et un argument à renvoyer et à adresser aux détracteurs de la psychanalyse qui bien souvent n'en ont rien eu. Et par rapport à l'accusation de phallocentrisme qui est bien souvent encore décriée, on a ici dans ces quelques pages, je vous rappelle la date, mars 63, un renversement de perspective sur cette question qui complexifie pour le moins la question. Alors qu'on entend encore là toute une critique de la psychanalyse en tant qu'elle serait phallocentrique, Jacques-Alain Miller dit qu'à cette époque-là, il y a même comme une espèce d'éloge de la féminité de la part de Lacan. Mais ça demandera à être précisé comment entendre ça pour ne pas trop délirer de ce côté-là non plus. Alors cette inversion donc fantastique, là, en quoi consiste-t-elle? Pour une part, elle concerne la question de la castration et du manque. Donc. Et le renversement consiste, pour Lacan, dans le séminaire L'Angoisse, à situer, je dirais, l'origine, ou plutôt le lieu de la question du manque, le lieu sur lequel s'origine la question de la castration, côté mâle. Alors que jusque-là, Laura le rappelait, toute la doxa analytique freudienne mettait le manque côté femme. Enfin, comme s'originant plutôt du côté de la femme. Plutôt même du côté de la mère. Pour être précis. C'est la définition freudienne du phallus, comme étant en effet ce qui manque à la mère. Donc, ce qui est supposé, donc le phallus, au fond, la définition qu'on donne Freud, c'est ce qui est supposé, dans un rapport de comparaison père, manquer à la mère par l'enfant. C'est le manque attribué à la mère par l'enfant. C'est ça la théorie phallique freudienne. Alors, quand je dis que c'est ce qui est supposé manquer à la mère, le terme même de supposé signe que tout ça se joue dans une dimension symbolique et imaginaire de la chose. Puisque Laura l'a rappelé à la page 217, donc dans le chapitre avant celui qui m'intéresse, et la formulation est forte, Lacan signale qu'au niveau du réel, au niveau du réel à entendre, disons, au niveau de la réalité, si vous voulez, il ne manque rien. C'est une supposition, ce manque est une supposition, au fond, dans une dimension comparative. Mais réellement, insiste Lacan, à la mère, il ne manque rien. Ce qui fait mieux saisir encore l'empan de la fameuse formule de la castration qu'élabore Lacan dans son séminaire 5, à partir du tableau à trois entrées que vous connaissez, où il indique que la castration, c'est un manque symbolique d'un objet imaginaire. On voit bien que là, que on se situe, que situer le manque comme ça, c'est situer le manque dans un registre symbolique et imaginaire. C'est là, dans ce niveau-là, qu'il faut inscrire le renversement de perspective. L'angoisse, le séminaire L'angoisse, est un séminaire qui se veut résolument, après de nombreuses années de développement jusqu'à plus soif de la dimension symbolique de l'expérience humaine, c'est un séminaire qui veut se tourner résolument vers quelque chose de plus réel. Et dans cette dimension-là, à se situer dans cette dimension-là, Lacan est amené à revisiter complètement ce qui est resté dans la doxa analytique comme le complexe d'Oedipe et le complexe de castration de Freud. Il est amené à revisiter complètement ça pour considérer que cette construction-là, du mythe de la castration et du complexe d'Oedipe, c'est un fantasme, ou du moins une mise en forme mythique de quelque chose qui réellement touche plutôt au corps. C'est ce qui permet de faire surgir à ce moment-là de son élaboration cette proposition dont Jacques-Alain Miller dit qu'elle est proprement scandaleuse par rapport à toute la littérature analytique, à savoir que la femme ne manque de rien. Vous voyez que ça vient vraiment en complète opposition avec la théorie analytique jusque-là. Et prendre les choses comme ça entraîne une toute autre structuration, une toute autre perspective de la position féminine que de celle de sa position par rapport au manque phallique, qui la concerne certes également, mais alors là, il faudra étudier toute la page 33 parce que ça va apparaître, si on le dit comme ça, comme contredisant un peu ce que Laura disait, et ça ne le contredit pas, en fait. La question du manque la concerne aussi, et Lacan précise que son insatisfaction foncière, enfin, que la femme est aussi à la demande, en demande de ce qu'elle n'a pas, mais que cet objet de ce qu'elle n'a pas, mais que cet objet de son désir, est un objet pré-castration, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec le phallus, mais qui est plutôt l'objet du rapport à la demande. Enfin bon, on va passer à ça, c'est le registre de Laura, Moi, je veux me mettre du côté homme. Ce qui fait que la femme a une plus grande dépendance dans le rapport à la demande, comme Laura vient de nous le dire. Mais son insatisfaction foncière se situe moins, dit Lacan, dans le fait d'être le plus fort ou plus désirable, etc., ce qui sont des caractéristiques masculines. Mais il dit, à la page 233, que ça se situe dans le registre d'avoir l'objet. Bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais dans cette orientation vers les réels de ce séminaire, la question du phallus, qui était jusque-là par Freud et par Lacan appréhendée en termes de symbolique et d'imaginaire, comme étant ce qui est supposé manquer à la mère, passe du côté, dans la logique de son séminaire, passe du côté du pénis réel, c'est-à-dire de l'organe. Alors, qu'en est-il quand on quitte les sphères de l'imaginaire au symbolique pour s'orienter vers le rapport qu'entretient le mâle à son organe en termes de jouissance? Alors, poser la question de ce côté-là, dans ce registre-là, fait basculer le manque, fait basculer la question du manque. Ça se situe toujours dans le registre de la comparaison, côté garçon. L'obsessionnel est quelqu'un qui se compare. Il est tout entier pris dans le registre de l'imaginaire. Mais au niveau de l'organe réel, ce qui devient central, c'est le phallus en tant qu'organe à ce moment-là. Alors c'est un syntagme que fait sortir Lacan et qui a son importance. C'est-à-dire, certes, qui a son importance pour faire saisir que certes, c'est la question de l'organe qui est maintenant en jeu, mais néanmoins, ça reste encore dans une dimension, vous allez voir, comparative. Et donc, il y a là une dimension réelle, mais c'est l'organe porté à la dimension du phallus. Donc, ça reste quand même pris dans les registres de l'imaginaire et du symbolique. On ne s'imagine pas tout un développement, comme je vais le faire, pareil dans le registre animal. Mais l'essentiel, c'est que Lacan déplace la question de l'embarras du côté de l'organe. C'est un séminaire l'angoisse des organes, du corps, qui est plus centré sur la biologie. Et au fond, Lacan fait remarquer, c'est pour ça qu'il situe la femme comme étant plus libre, au fond, moins embarrassée, moins encombrée, en rapport à l'homme, au mâle, qui lui se retrouve encombré de son organe. Donc, il fait vraiment se déplacer l'accent. Et le mâle s'en retrouve encombré en tant que cet organe lui échappe, qu'il échappe à son contrôle, qu'il échappe au contrôle du corps, qui l'encombre, qui l'embarrasse et qui l'entrave. C'est une des premières formes, je dirais, où Lacan essaye d'appréhender le manque du côté de l'organe pour le mâle. Il est en manque par rapport à son organe, au sens où cet organe l'encombre du fait qu'il est pris d'un trop de vie qu'il ne peut pas contrôler. C'est, vous savez ça, ce que Lacan débrouille à partir de la clinique du petit Hans et de sa phobie des chevaux. Il fait remarquer qu'au-delà de ses peurs symboliques et imaginaires des chevaux, qui n'en sont au fond que les représentants, l'angoisse surgit pour le petit Hans quand son organe se met à frétiller, hors de son contrôle corporel. C'est au fond ces premières érections qui n'en font qu'à leur tête, qui embrouillent Hans. Au fond, le fait de bander hors des seules coordonnées du vouloir qui angoisse Hans et l'embarrasse, car cela vient faire trou dans le savoir. C'est une première façon de situer le manque du mâle dans son rapport à l'organe. Mais il y en a une deuxième, plus essentielle, que Lacan extrait dans ce séminaire. C'est que la dimension de la castration, Lacan la déplace sur la question de l'organe, en mettant en avant la fonction de la détumescence à la place de la castration. C'est l'autre forme du manque dans le rapport à l'organe. En quelque sorte, dit Lacan, l'homme perd l'organe qu'il met en jeu dans l'acte de copulation. Alors comment comprendre ça ? Assez simplement, c'est-à-dire que l'homme met en jeu dans l'acte de la copulation un organe tumescent, en érection, érectile, qu'il perd dans l'acte même par sa détumescence. C'est là que se marque pour lui, dit Jacques-Alain Miller, pour l'homme, la limite cruelle de la castration. Donc vous saisissez le déplacement de perspective, hein, vraiment. La castration est vécue pour le mâle à un niveau biologique, au niveau de son organe, en tant, pour le dire autrement, qu'il n'est pas érectile tout le temps et de façon continue. C'est dans la détumescence de son organe, dans l'acte sexuel, que le mâle se trouve confronté à la castration, dans sa dimension de comparaison, par exemple, fantasmatique, d'une éventuelle jouissance féminine qui, elle, serait continue. C'est dans ce sens que, néanmoins, cette question biologique de l'organe, en tant qu'il est soumis à la détumescence, est néanmoins surdéterminée par des enjeux symboliques et imaginaires. C'est pour ça que Lacan parle du phallus organe. Puisque ça vient quand même pour l'homme en comparaison avec un organe, pas avec un organe sexuel, mais avec une dimension de la jouissance sexuelle qui ne serait pas soumise, au fond, à cet arrêt de la jouissance, à cette perte de la jouissance. Et que l'homme, fantasmatiquement, est très fort enclin à attribuer à la femme, à la jouissance féminine plutôt. Alors, ça part donc de la question plus biologique de l'organe mâle. Néanmoins, la surdétermination par les enjeux symboliques et imaginaires de cet organe biologique, qui vaut bien entendu toujours, c'est pour cela que Lacan parle du phallus organe, mais en le référenciant à l'organe en tant que tel, qui préférentiellement, par la dimension de vie qui s'y attribue, viennent à se localiser là chez l'homme, sans compter que c'est aussi dans cet organe pénien donc que trouve à se localiser chez le partenaire féminin l'objet de son attente et de sa satisfaction. C'est cette surdétermination-là sur l'organe qui fait que chez l'être mâle, cette fonction biologique de l'organe s'accompagne de tous les troubles et angoisses proprement masculins liés à cet organe et à son fonctionnement lors de la copulation, avec toutes les symptômes qui peuvent s'y lier, allant de l'impuissance à l'éjaculation précoce, etc. De même, c'est là que se situent, comme je l'ai déjà dit, tous les fantasmes comparatifs qui restent du registre masculin, mais qui se déplacent au fond, si vous voulez, qui restent encore dans la dimension du rival, mais qui se déplacent aussi ici au regard de la jouissance de la femme. Au regard, par exemple, d'une supposée jouissance continue de la femme, qui, de fait, ne se marque pas par l'évanouissement, la disparition, l'évanescence. Ce sont des caractères qui étaient souvent mis du côté féminin, et que Lacan localise ici maintenant du côté de l'organe mâle, de l'organe mis en jeu dans l'acte de la copulation. On a vraiment un renversement là, l'évanouissement, la disparition, l'évanescence, enfin c'est vraiment des caractères féminins jusque-là, souvent utilisés en termes féminins. Lacan le loge maintenant sur l'organe mâle en tant que tel. Ce qui permet de dire à Lacan, au fond, que le supposé masochisme féminin est un fantasme masculin, c'est-à-dire un fantasme d'une femme qui serait objet, un objet permanent, qui jouirait d'être la jouissance de l'homme, et ce sans limite, sans ces limites de la castration, qui dans l'organe mâle se manifeste par sa dimension en éclipse maintenant. Ou bien notre fantasme mâle concomitant d'avoir la puissance de faire jouir une femme hors limite de sa propre détumescence. Ce qui fait de l'homme un scrutateur de la jouissance féminine qui, de par son fantasme, le fascine. Bon, vous remarquerez qu'il y a là un déplacement essentiel. Qui rend compte d'une partie de la fameuse formule initiale qui a donné le titre à mon intervention. Ce qui manque, c'est donc une affaire de mâle, maintenant, pour Lacan. C'est ça le renversement essentiel si on s'intéresse à l'organe en tant que tel, si on prend ça comme point de référence. Je comptais vous citer là un passage de Jacques Lemire, je propose de le passer. Comment ? Oui, mais j'avais encore envie de m'attarder surtout sur d'autres choses. Mais enfin, ce que Jacques Lemire fait remarquer, c'est que dans ces pages essentielles, où il dit qu'il y a là un revirement vraiment complet de la doxa psychanalytique, fondant cette logique, la castration relève plus d'une perte d'une dimension du vivant où, donc dans la détumescence par exemple, où il n'y a plus aucun agent de la castration qui est à l'œuvre. Ce n'est pas comme dans le mythe oedipien que la castration, toute la mythologie oedipienne, que la castration serait liée à, par exemple, on va y revenir, la figure d'un père qui interdit, qui empêche d'eux. Ici, la castration est vraiment liée au biologique en tant que tel et à la dimension du vivant dans l'organe sexuel mâle. C'était la première partie que je voulais amener. Mais ce qui m'a particulièrement retenu, ce sont les premières pages cliniques, là aussi, de la 15e leçon, donc une affaire de mâle. À partir de ce que je viens de déployer, il y a donc là ce que Lacan nomme chez l'homme une castration primaire fondamentale. Il dit ça à la page 231. Là aussi, hein, ça fait mesurer le renversement. Lié donc, comme il dit, à la racine biologique de l'organe et de ses particularités comme organe de copulation. Et c'est là qu'éprouve que le mâle, côté homme, éprouve, c'est à travers ça qu'il éprouve une angoisse de castration. Cette angoisse de castration qui l'angoisse, donc, et qu'il essaye de recouvrir de plusieurs façons. Ce sur quoi je voudrais m'arrêter ici, c'est sur la particularité du fantasme masculin que Lacan articule dans sa dimension sadique et que Laura a déjà cité en passant tout à l'heure. parce que cette dimension sadique du fantasme masculin est ce qui donne l'os de la formule complète et précise qui fait le départ donc de mon intervention. Au-delà de ce que je viens de développer. Certes, le manque est situé dans cette logique côté masculin, mais il y a un pas complémentaire que fait Lacan dans la formule, puisqu'il dit ce qu'il cherche, donc le patient de Lucia Tower, je me trompais dans mes notes, mais enfin, ce qu'il cherche, c'est que l'homme cherche, si vous prenez, je vais le déployer hein, dans cette formule, c'est que l'homme, son patient, cherche pour s'en défendre à attribuer au partenaire féminin la castration qui est la sienne, en fait, qui n'est que la sienne. Hein, c'est en français la phrase, ce qu'il recherche, donc notons-y la dimension active, c'est moins fille. Il recherche ce qui lui manque à elle, mais ça, dit Lacan, cette recherche-là de ce qui lui manque à elle, c'est son affaire à lui, au fond, puisqu'il situe la castration maintenant de son côté, l'origine de la castration de son côté. Et avec tout le développement que fait Lacan et dont Laura a déployé, qu'au fond, la femme, il ne lui manque rien. Donc, toute cette dialectique est un montage défensif du sujet obsessionnel. Donc, Lacan, dans ces quelques pages, ces quelques lignes, isole, à partir de la clinique, un mode de recouvrement, une forme où trouve à se manifester le « je n'en veux rien savoir » du sujet obsessionnel, qui trouve à traduire, à décliner de façon précise dans le rapport à la castration. Enfin, ça reprend d'une autre façon, plus précise, dans le rapport à la castration, ce qui est souvent épinglé d'agressivité chez l'obsessionnel. Il y a bien entendu, enfin, c'est ce qu'on connaît le mieux, l'agressivité de l'obsessionnel du fait de son rapport imaginaire et rivalitaire à l'autre. Un autre auquel il attribue la cause, finalement de façon classique, de son manque à jouir. C'est-à-dire un autre qui l'empêche ou qui l'entrave de, ou dont il a peur. C'est ce qui rend épique la figure du père, du maître, du supérieur, comme agent de la castration, avec qui l'obsessionnel est en rivalité et dont, couard, il attend la mort pour enfin pouvoir jouir comme il le ferait s'il n'en était pas empêché par cet autre auquel il fait porter, auquel il attribue l'agence de sa propre castration. Ça, c'est le classique. Donc, il est en rivalité. Et donc, il y a une dimension imaginaire, rivalitaire. Avec toute la dimension de remise à deux mains de la réalisation de son désir, dans une éternisation du temps suspendu qui fait la marque du symptôme obsessionnel. Ça, c'est ce qu'on connaît. Mais dans ces pages, Lacan isole, à partir donc des cas que déploie Lucia Tower, une forme qui m'a arrêté et qu'il situe en quelque sorte comme antécédant cette logique-là. Une forme donc qui trouve à se traduire dans la dimension relationnelle à son partenaire féminin. À savoir, donc, je reprends ces termes, qu'il cherche, par ses coups de boutoir, en scrutant son partenaire, qui peut d'ailleurs, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, qui peut d'ailleurs être un homme, ce n'est pas cela qui est important, mais qui du coup féminise ce partenaire. Il scrute son partenaire pour y pointer, pour y révéler, pour y chercher la castration de ce partenaire. Il y a là, dit Lacan, une particularité du désir mâle d'être à la recherche d'un objet chez l'autre, celui du manque de la castration, qui en fait ne le concerne que lui, pour faire porter à cet autre cette castration et voiler ainsi la sienne propre. Je ne sais pas si vous voyez la complexité du sujet obsessionnel. Et au fond, Lacan repère cela à l'œuvre. Laura l'a déployé plus en détail, et donc référez-vous à ça. Je ne vais pas revenir dans le détail, mais Lacan repère cela à l'œuvre après une interprétation de l'analyste Lucia Tower à son analysant. Interprétation qu'elle ne livre pas vraiment, fait remarquer Lacan, parce que son article se centre sur la dimension contre-transférentielle. Néanmoins, Lacan s'appuie sur l'analyse de ce contre-transfert pour resituer et pour en tirer un enseignement, au fond, dans ce chapitre-là, en tout cas dans le précédent il fait autre chose, mais dans ce chapitre-là, il s'appuie sur cette analyse de Lucia Tower pour, dans cette fameuse phrase qui nous occupe, en extraire un fantasme masculin. Donc la fameuse interprétation que fait Lucia Tower, Laura vous en a parlé, apporte au fond pour l'analysant, chez l'analysant, une rectification qui le remet dans les voies de son propre désir. C'est-à-dire, vous vous souvenez, hein, ce que Laura avait déployé là, c'est-à-dire c'est cet homme dont Lucia Tower a une tendance à protéger la femme et dont, au fond, elle finit par se rendre compte, comme disait Laura, et de renvoyer au fond à son analysant que finalement sa position masculine, il la tient pas si mal que ça. Alors qu'elle pensait plutôt qu'il était défaillant de ce côté-là.
Lacan dit que c'est seulement après que Lucia Tower introduit son désir à elle, à partir du rêve. C'est à ce moment-là où elle est en tant qu'objet sadique à lui, dans l'analyse, que lui, il devient agressif avec elle. C'est ça. C'est-à-dire que son désir à elle doit être en cause. C'est ça que dit Lacan d'une certaine façon. Ce n'est pas seulement son interprétation, ce n'est pas seulement ce qu'elle lit en tant qu'analyste, mais c'est surtout ce qu'elle dit après les rêves, où elle est, son désir est là.
Voilà. Alors, ça, c'est si on le prend du côté du contre-transfert, mais dans ces pages-là, ce que Lacan fait remarquer, au fond, c'est que par son interprétation, qu'elle définit elle-même comme étant une remise au point, bref, elle l'a, à partir de ce rêve et des choses comme ça, néanmoins, elle bouscule quelque chose par son interprétation chez le sujet. Chez son analysant, et fait remarquer Lacan, par son interprétation, il se révèle à cet analysant qu'elle est plus preste à l'interpréter qu'il ne le pense. C'est-à-dire qu'elle est venue le bousculer là dans quelque chose. Or, c'est justement ce que le sujet obsessionnel tente par tous les moyens de rejeter, d'éviter en noyant les choses dans son embrouille. C'est-à-dire qu'on l'interprète. Lacan allant même jusqu'à parler de rejet de l'inconscient chez l'obsessionnel comme mode défensif. C'est après l'interprétation, au fond, que s'ensuit une phase de déchaînement par l'angoisse qu'elle fait surgir au niveau de l'analysant, qui est là placé devant les coordonnées de son désir, et qui fait surgir, dit Lacan, non pas le désir de l'analysant, mais dès lors l'objet pulsionnel, comme tu disais, qui fait monter sur l'avant de la scène l'objet pulsionnel. Surgit à l'avant-plan l'objet pulsionnel sadique qui ouvre à une séquence sous forme de rétorsion inconsciente, où l'analyste est scruté, ce qui lui donne le sentiment à Lucia Tower de ne plus pouvoir se permettre le moindre écart et ce qui l'épuise. C'est de cela, de ce phénomène clinique-là, au fond, que s'empare Lacan pour situer une forme de désir de l'homme qu'il qualifie, justement, comme tu l'as cité, de recherche sadique qui consiste à faire jaillir ce qui doit être chez le partenaire à la place supposée du manque. C'est-à-dire qu'il traque là l'erreur, le manque, la castration chez sa femme. Alors, cette dimension-là peut prendre différentes formes que Lacan ne développe pas ici, qui vont du dénigrement continuel du partenaire, objet d'un ressentiment et d'un reproche, c'est-à-dire faire porter à l'autre un manque, et qui peut d'ailleurs, c'est une être dans son fantasme sadique une condition de jouissance de l'homme. C'est une autre façon de prendre la dimension du ravalement amoureux. Mais ça va aussi jusqu'à, pour l'homme, pointer sous forme de récrimination et d'agacement fort, pointer le côté égaré, non orienté de son partenaire féminin, lui permettant, lui, de maintenir le fantasme que lui sait ce qu'il veut, que lui n'est pas égaré, que lui, ça tourne droit, au fond. Qu'il ne se trompe pas, qu'il ne fait pas texte manqué, enfin, qu'il n'est pas égaré. C'est le côté obsessionnel solide, là. Même si c'est une parenthèse, parce que j'avais promis au début que je ferais ça, même si c'est une parenthèse, l'identification d'une femme à son égarement est aussi une identification. C'est une parenthèse qui permet de préciser ce que Jacques Alain Miller pointait d'éloge de la féminité chez le Lacan de cette époque. L'éloge de la féminité que fait Lacan, l'éloge du côté femme plus vrai, au fond, moins encombré du rapport plus direct et moins encombré à l'objet de son désir pour la femme, c'est ça qu'il met en avant. D'accord. Là où l'homme se retrouve encombré, empêché, entravé par le passage par l'organe et ses embrouilles narcissiques qui l'y collent. C'est à ce niveau-là qu'il faut situer le côté plus libre de la femme que pointe Lacan, et pas au niveau de l'égarement hystérique, par exemple, ce qui en est d'ailleurs tout à fait l'inverse. Alors, pour saisir ça, on a ce beau passage à la page 235 que Lacan développe un peu de façon ironique pour développer ce côté plus égaré, plus encombré. Le petit garçon, dit-il, lui, pauvre couillon, regarde le petit robinet problématique, dit-il. Regarde son petit robinet problématique dans le miroir, en opposition, dit-il, à la petite fille qui, elle aussi, se trahit d'être prise elle aussi le petit garçon regarde donc son petit robinet problématique et il dit il se doute vaguement qu'il y a là une bizarrerie. Puis dit-il, il faudra qu'il apprenne, et à ses dépens, que ce qu'il y a là, ça n'existe pas, je veux dire auprès de ce qu'a papa et de ce qu'ont les grands frères. Donc ça, c'est toute la dimension comparative. Vous connaissez, dit-il, toute la première dialectique de la comparaison. Il apprendra ensuite que non seulement ça n'existe pas, mais que ça ne veut rien savoir, ou plus exactement, que ça n'en fait qu'à sa tête. C'est tout ce qu'on a développé tout à l'heure. Bon. Mais ce symptôme... cette défense plutôt du sujet obsessionnel de venir de façon sadique faire jaillir chez son partenaire le manque supposé de ce partenaire pour venir recouvrir le sien propre peut prendre des formes plus subtiles, plus soft, comme Jacques Alain Miller en avait témoigné, je pense, dans une de ses émissions à la radio, qu'il mettait au fond de ce phénomène, qu'il plaçait au fond comme une épure, comme un paradigme de ce phénomène. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il vient raconter là la crise de larmes qu'il a provoquée chez sa petite fille en lui faisant remarquer, quand elle marchait devant elle, qu'elle avait un trou dans son pantalon, dans sa culotte. C'est plus précis. C'est plus proche. Et au fond, ça me revenait à l'esprit en me disant que dans ce petit phénomène clinique-là, Jacques-Alain Miller faisait remarquer que c'était un penchant vraiment des hommes là, de venir pointer la castration chez l'autre. Et il donnait comme conseil aux hommes de ne jamais pointer et de venir dévoiler la castration chez une femme. Parce que cela touche chez elle, au-delà de la question de l'organe, à son être même. Mais enfin, on retrouve là ce même phénomène de venir pour l'homme de façon sadique, être aspiré à venir pointer la castration chez l'autre. Alors, par rapport à cette modalité de défense-là, Lacan donne deux directions de sortie pour le sujet obsessionnel, à deux niveaux. 10 minutes. Oui, oui. Alors, qu'il situe d'un côté du côté d'une désidentification et d'un autre côté du côté du deuil, ce qui se recouvre d'ailleurs. Alors, revenons à ce qu'il dit du petit garçon, ce pauvre couillon de structure, donc, concernant son organe. Que dit Lacan ? Il dit qu'il devra apprendre pas à pas, bon, ça tombe bien, dans son expérience individuelle, à rayer son petit robinet, là, comme il dit, de la carte de son narcissisme. Rayer cette question de la carte de... alors, il dit, je ne dis pas que, que c'est simple, mais néanmoins, il pointe que pour le garçon mâle, c'est ça qu'il devra apprendre, comme il dit, pas à pas. Alors, rayer cette question de la carte de son narcissisme, je trouvais que c'était très beau et très précis. C'est-à-dire que son narcissisme, ce n'est pas là, dans cette question de l'organe, qu'il s'agit pour l'homme de le situer. C'est ça que dit Lacan. J'avais été frappé, je n'ai pas pu retrouver exactement où, mais je sais qu'il dit ça quelque part ailleurs aussi, à propos du petit Hans, justement, en disant que pour l'homme, ce n'est pas au travers de l'organe qu'il doit situer et prouver sa virilité. C'est étonnant, mais il dit ça quelque part. Et c'est en ne mettant pas son narcissisme dans l'organe que c'est la seule chance, dit Lacan, qu'il puisse cet organe entrer en fonction sans ces entraves qui imposent son narcissisme, justement. Remarquez que c'est complètement l'inverse et le contraire de ce qui se dit au niveau de la psychologie courante. C'est pour ça que Lacan fait par exemple de l'éjaculation précoce, non pas un problème de manque de confiance qui nécessiterait la restauration d'une force du moi. C'est comme ça qu'on prend toujours la chose, évidemment. Mais comme un problème narcissique même, c'est-à-dire du moi en tant que tel. En tant que le sujet identifie son narcissisme à la puissance de son organe. Il s'agit dès lors qu'il puisse un peu arrêter de situer dans l'organe son être, dit Lacan. Alors que justement, le désir de l'homme est sans arrêt, dit-il, articulé à ce qu'il n'est pas et par où il défaille. À la page 231, Lacan donne une autre issue à la question, du moins à cette époque-là, par une sorte d'assomption qui repart de cette phrase qui fait notre point de départ et que nous tentons de déployer. Il revient donc sur le sentiment d'oppression de l'analyste Lucia Tower face à cet autre scrutateur auquel elle avait affaire, au point qu'elle en avait assez, comme Laura a rappelé. Elle était épuisée, n'en pouvait plus, ne rêvait que d'une chose, à savoir que son patient ne vienne plus. Tout tourne pour Lucia Tower autour de ces questions-là, d'ailleurs, dans ces différents cas. Elle analyse, tout l'analyse tourne autour de son contre-transfert qu'elle considère, elle, comme relevant de son pensant masochiste, au fond. Au fond, qu'elle se fait maltraiter par l'autre. Lacan prend ça, mais pour étudier la question du côté homme, c'est-à-dire, non pas du côté de masochisme féminin, mais du côté de ce désir sadique de l'homme, là, de son patient. Donc, dans ces pages-là, en tout cas, Lacan considère qu'elle se fourvoie en prenant la question du côté du masochisme. Et d'ailleurs, il remarque qu'elle rectifie très vite les choses. Justement, comme Laura le répétait là, non seulement parce qu'elle remarque que là où elle était obsédée par cela, ça tombe très vite dès qu'elle est en vacances, et aussi qu'elle se dès qu'elle se décide à se laisser un peu moins faire, ou du moins apporter moins d'attention à son patient. Elle tire ça d'une leçon d'une autre patiente, au fond, où elle remarque que la persécution de sa patiente tombe, au fond, alors qu'elle oublie un rendez-vous et le dit à sa patiente comme telle, là où elle pensait que cela déchaînerait de plus belle son ire, au fond, à cette patiente. Alors Lacan rend hommage aux analystes femmes post-freudiennes. Et au fond, il dit qu'elle retombe à ce point vite sur ses pattes, comme elle dit, du fait que dans son rapport pluriel au désir, elle sait très bien, dit-il, au départ sans le savoir, mais il dit qu'elle sait très bien, Lucia Thor, qu'il peut toujours chercher sa castration, son patient, dit-il, qu'il peut donc toujours chercher, au fond, il n'a jamais été question qu'il la trouve. Elle sait très bien, dit Lacan, qu'il ne lui manque rien. Mais Lacan est plus précis, je terminerai là-dessus. Il dit, c'est moins qu'il ne lui manque rien, parce que là, on se situe encore dans l'illusion phallique, c'est que le mode sous lequel le manque joue dans le développement féminin n'est pas articulé au niveau où il est cherché par le désir de l'homme. Et c'est là qu'il ajoute, quand il s'agit à proprement pour lui, dans cette recherche sadique, qui consiste à faire jaillir ce qui doit être chez le partenaire à la place supposée du manque. Eh bien, dit Lacan, c'est justement de ça qu'il doit faire son deuil, dit-il dans cette fameuse phrase. Le sujet obsessionnel a à faire son deuil de trouver dans son partenaire son propre manque, la castration fondamentale de l'homme, telle que, dit Lacan, je vous l'ai désignée au niveau de sa racine biologique, des particularités de l'instrument de copulation. C'est de cela qu'il faut qu'il fasse son deuil. Devenir le situer dans son partenaire pour pouvoir, en quelque sorte, affronter, dans une espèce d'assomption, son propre manque à lui. Quelque chose comme ça.
Eh bien, merci beaucoup, Yves van der Weken. Je vais peut-être commencer à ouvrir le débat en vous posant quelques questions. Comme ça, vous avez le temps de réfléchir à vos propres questions. Peut-être pour Laura, j'avais envie de revenir sur un petit extrait du séminaire qui me semblait extrêmement important par rapport à cette question de est-ce que ça manque, est-ce que ça ne manque pas, et le lien au réel qu'on aborde ici dans ce séminaire. Une petite note de Lacan qui a l'air comme ça d'une nuance, mais qui au fond ne l'est pas du tout. Lorsqu'il dit à la page 217 et 216, d'ailleurs ça commence là-bas, qu'au fond on a peut-être interprété un peu vite ses propos sur le réel en disant à sa place, donc en transformant son propos, que le réel était toujours quelque chose de plein. Et il reprend à la page suivante qui peut parler comme ça du réel. L'ennui, c'est que je n'ai jamais dit ça. Le réel fourmille de creux, on peut même y faire le vide. Ce que je dis est tout à fait différent, c'est qu'au réel, il ne manque rien. Donc je trouvais cette nuance sur l'abord du réel vraiment intéressante et qui finalement parcourt assez bien vos deux propos de ce soir sur le côté que être plein n'est pas manquer ou ne pas manquer. Enfin, le réel fourmille de creux, mais au réel, il ne manque rien. Donc ça me semblait vraiment... je ne sais pas s'il y a moyen peut-être d'en dire un petit quelque chose. Et à propos des propos de Laura et du petit dialogue qu'il y a eu entre vous deux. Au fond, lorsque l'intervention de Lucia Tower fait effet dans le travail de l'analyse de ce patient, tu as souligné la place du désir, outre le fait de l'interprétation, c'est-à-dire que son désir à elle entre en jeu. Et est-ce que tu pourrais nous dire s'il s'agit de son désir d'analyste ou non? Enfin voilà, préciser la question de son désir à elle, de quel désir s'agit-il? Peut-être pour revenir vers vers Yves, je trouvais vraiment intéressant de resituer cette inversion complète que fait Lacan, comme tu l'as fait au début du propos. Et j'avais peut-être envie de soulever, je trouvais aussi très intéressant de voir le lien, enfin le renversement non seulement de la position masculine et de la position féminine, mais aussi de l'usage que fait Lacan des registres réels, imaginaires et symboliques dans ce qu'il amène ici. Et j'avais envie de poser une question sur la fin du dernier chapitre qui consiste à parler, où il parle de la circoncision. Et en fait, de dire, mais au fond, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il amène dans la dernière partie du séminaire cet exemple-là par rapport à cette question de ces trois registres? Qu'est-ce qui fait qu'il amène cette question-là, dont j'ai l'impression, mais sans pouvoir en être sûr, c'est pour ça que je pose la question, qu'il prend ça comme exemple, me semble-t-il, de quelque chose qui se passe sur le réel du corps, mais qui est accompagné d'une situation culturelle qui symbolise et qui imaginarise aussi la situation. Voilà.
Par rapport à la question de vide et plein, et comment je la comprends, c'est que la question du vide et du plein, comme la question d'avoir ou ne pas avoir, c'est tout ça est dans un registre de la comparaison. C'est-à-dire quelque chose est vide par rapport à un autre qui ne l'est pas, qui est plein, etc. Il y a une question de comparaison. Et quand il s'agit du réel, il n'y a pas de comparaison. Le réel est. C'est-à-dire, pas par rapport à autre chose. Dès qu'il y a un être qui se définit, une catégorie qui se définit par rapport à un autre, on est d'une certaine façon au-delà du réel ou en deçà, mais je veux dire, on n'est pas dans le réel. Ça, d'une part. Et par rapport au désir, je crois, j'ai compris que ce que Lacan veut montrer justement, c'est que les désirs de l'analyste n'est pas justement là, à ce moment-là. Ça, c'est la critique, si on veut, qu'il fait de Lucy Tower. C'est que Lucy Tower, dans son texte, amène la question du désir au moment de l'interprétation qui fait virer les cas. Mais donc, justement, Lacan dit, ce n'est pas là qu'est le désir de l'analyste. Le désir de l'analyste est justement au moment où elle c'est, comment dire, elle, tout cela ne l'importe pas du tout. C'est-à-dire, tout cela, elle n'a aucun intérêt, aucun désir à propos de ça. Justement, aucun intérêt, dans le sens de l'intérêt. Désir dans le sens de l'intérêt. Donc, quand ça ne l'intéresse plus, c'est là que le désir d'analyste est présent, selon Lacan, à mon avis. Et non pas au moment où elle, justement, met en place son propre désir à elle par rapport à son Oedipe. Elle parle de la rivalité par rapport à l'autre femme, dans la triangularité, etc. Ce n'est pas à ce moment-là qui est justement pas à ce moment-là qu'est le désir de l'analyste. Voilà. C'est ça que j'ai compris, en tout cas. Je ne sais pas, c'est une lecture.
Merci.
Oui, alors, je pense que Lacan s'intéresse à la dimension de la circoncision dans la dimension où tu viens de le dire. Et en même temps, Jacques-Alain Miller fait remarquer, vous savez, qu'il y a dans deux numéros de la revue de la cause freudienne sont publiés au fond, le commentaire de plusieurs leçons de son cours où il commente au moment de la sortie du séminaire, le séminaire L'Angoisse. Et il permet de comprendre ça, je pense, en faisant un pas supplémentaire, c'est que... comment essayer de résumer ça au mieux ? C'est qu'au fond, on a vu déjà le déplacement que faisait Lacan de la castration symbolique imaginaire du côté de l'organe. Mais néanmoins, l'organe, enfin, ce déplacement sur le côté de l'organe reste quand même toujours articulé à la dimension de l'organe pénien. Mais ce qui intéresse Lacan là, c'est cette dimension de perte de vie, tout d'un coup, de l'organe. Et Miller fait remarquer dans ses pages qu'au fond, c'est déjà un préalable, au fond, à ce qu'il va développer plus tard, dans la suite de ses séminaires, et qui fera de la castration, de cette question de la castration, au fond, comment est-ce qu'il dit ça ? N'être qu'un cas particulier d'une fonction plus généralisée chez l'être humain et dont il essaiera de rendre compte plus tard, non plus en termes de castration, mais par la fonction de séparation. C'est-à-dire qu'il y a un bout de vivant qui doit être, qui est chez l'être humain soustrait quand tout se passe bien. Enfin, c'est toute la dimension de l'objet que le psychotique a dans sa poche et des choses comme ça. Et Lacan, de plus en plus, commence à s'intéresser à la dimension de la circoncision, c'est certes pour ce que tu évoquais, mais aussi pour le bout de chair qui en est enlevé. Et on voit le début de ça dans la façon dont il commence à s'intéresser à la circoncision dans la fin de ce séminaire. C'est, en tout cas, je pense que pointe Miller. C'est-à-dire que là où la castration était au niveau symbolique, il le met au niveau de l'organe. Miller fait remarquer qu'il va en faire un cas particulier d'une castration qui porte de façon... et qu'il appellera même plus castration, justement, pour la détacher de l'organe même, mais d'une opération beaucoup plus fondamentale d'extraction d'un point de vivant du corps.
Merci. Ce qui nous emmène pas à pas, un pas plus loin. Eh bien, on va peut-être essayer de remettre le micro ici, mais peut-être s'il est fixe, que s'il ne bouge pas, que voilà. Comme ça, je vais pouvoir partir auprès de vous. Si vous avez des questions.
Dans ce fameux renversement des choses, justement, qu'opère Lacan ici, qui est effectivement extrêmement saisissant, la dépression, l'évanouissement. Alexandre Dumas parlait de la dame aux camélias qui s'évanouit tout le temps, mais non, c'est l'homme aux camélias. D'ailleurs, même l'anorexie, d'une certaine façon, le premier Lacan, les exemples qu'il donne, c'est des exemples de garçons. Hein, c'est vrai que c'est ici amener ça comme le sexe faible, parce que c'est le sexe, l'homme, c'est le sexe imaginaro-symbolique. Et c'est vrai que c'est saisissant de voir que la vérité masculine, c'est effectivement la jouissance masculine, c'est évidemment, c'est construit là-dessus, ce séminaire très pragmatique, c'est la tétumescence. Et à partir de là, tout s'ensuit. Alors, justement, je me demandais aussi, on a aussi une autre impression en même temps, c'est que un autre renversement, on peut dire, ça peut-être dans le fond, c'est que l'imaginaire, c'est que tout ça est évidemment construit. Ça, Lacan le passe un peu à l'as, mais c'est quand même l'imaginaire qui est, si Lacan est pragmatique, est un réaliste, c'est que les choses partent de l'imaginaire, c'est que cette affaire d'avoir ou pas quelque chose, un organe, c'est quelque chose qui se voit. C'est quelque chose de la vision. Hein? avant même d'entrer dans la détimescence, on a ou pas l'organe, c'est quelque chose qui part d'un, quelque chose qui se voit. Et c'est frappant de voir aussi qu'il situe la femme aussi de façon très libre par rapport à ça. Hein, on a toujours pensé qu'après tout, s'il y a bien un sexe qui se trouve campé, qui campe dans l'ordre de la représentation, de l'imaginaire, la robe, etc., pas du tout. Pas du tout. Le sexe narcissique, c'est encore une fois l'homme. Finalement, dans ce séminaire-ci, il ne reste pas grand-chose aux femmes, d'une certaine façon. Hein? Parce qu'elles, elles sont réelles. Alors, en même temps, ça, il ne le dit pas, mais on peut dire, c'est pas toujours si simple, en même temps, d'être réel. Parce qu'on ne sait pas comment le situer, du coup. L'homme, c'est simple. Un ou zéro, et en avant, ça tourne. Alors qu'ici, la femme plus vraie ou plus réelle, c'est vrai qu'elle échappe à la fois. On peut dire, elle échappe à la fois aux déterminations symboliques de 1 et de 0, de l'érection et de la détuberescence, et même, d'une certaine façon, à l'imaginaire. Elle est... Il en fait vraiment un être. Il parle d'une très grande liberté. Et en même temps, ça, il ne développe pas trop ici. Il insiste plutôt sur la positivité de la liberté féminine, mais il n'insiste pas vraiment sur la difficulté. Parce qu'en même temps, si on comprend ça comme ça, il y a aussi une grande difficulté à la position féminine. De ne pas avoir ses repères, ici, il se moque des repères masculins, parce que c'est une position foncière chez Lacan. Hein? C'est que Lacan n'aimait pas l'homme. Enfin, il n'aimait pas la position masculine. Il s'en moque tout le temps, et c'est en ce sens-là qu'il se différencie de Freud. Hein? Enfin, pour voilà, je peux... C'est une question qui vaut pour les deux. Je vais faire mon commentaire.
Moi, quand j'ai étudié ces chapitres, en fait, Lacan parle de la mascarade. Et j'ai pensé, au fond, la façon dont on peut concevoir la mascarade dans ces séminaires, si on compare avec le séminaire 5, tout ça, la signification du phallus et tout ça. Et c'est qu'au fond, dans la mascarade, la femme, c'est comme si elle faisait semblant de ne pas avoir quelque chose. De manquer quelque chose. Pour l'homme. C'est-à-dire, il y a, d'une certaine façon, la mascarade viendrait justement à répondre à cette difficulté propre à la femme que tu signales. Mais aussi, j'ai pensé... non, que, aussi, quand tu parles, parce que il me semble que ici Lacan, je t'ai surpris de ça, parce qu'il parle de la femme, de l'homme, comme des catégories très, très rigides, comme ça, d'une certaine façon, à ce moment. Et je crois qu'après, peut-être il faudrait penser tout ça dans le sens où la femme et l'homme sont chez tous, d'une certaine façon. Il y a la jouissance féminine qui est chez tout être humain. Et donc, d'une certaine façon, ça applique à tous. Je veux dire, parce que sinon, on a l'impression qu'il parle de la femme et de l'homme. Et en fait, je crois qu'il faudrait penser ça, tout homme a à voir avec ça, avec le réel de la femme.
Oui, l'homme racheté.
Pour le dire comme ça.
À l'homme racheté, un réel aussi. Bon, il semble indiquer que...
Oui,
il lui faut un certain effort pour y arriver. Hein Alors que c'est aussi marrant, là, il fait de la... Il dit que la femme se donne beaucoup de mal, effectivement, pour
pas
faire semblant de manquer, pour causer le désir d'un homme, c'est comique. Hein, c'est une gymnastique très amusante.
Ça marche ?
Oui, tu as raison de dire qu'il insiste... c'est parlant, comme tu dis, qu'il insiste... Il insiste beaucoup sur les embrouilles et... du côté homme, il insiste moins sur la difficulté féminine, mais en même temps, il l'aborde, je l'ai entendu chez Laura aussi, et dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'elle n'est pas aux prises avec toutes ces questions du narcissisme qui se loge dans l'organe, mais Lacan, alors c'est pas ici, je ne sais pas non plus Lafra fera porter la question du narcissisme féminin sur le désir. Il va parler de narcissisme féminin, de narcissisme du désir pour la femme. C'est-à-dire, il me semble t'avoir entendu ça, que tu disais qu'en même temps, et il le dit, même s'il n'insiste pas dessus dans ces pages-là, qu'au fond, la femme, elle est à la fois plus libre dans le rapport à l'organe, mais en même temps extrêmement dépendante du désir de l'autre, pour pouvoir situer ce qu'elle est, justement. Et que sans cette... Et je pense que c'est sur cette dimension, à partir de cette dimension-là, que Lacan utilise le syntagme de narcissisme du désir. C'est-à-dire que si elle n'a pas ce point de repère-là, elle est en difficulté. Et donc, il dit dans les pages qu'elle est extrêmement soumise, enfin, pas soumise, extrêmement dépendante de la demande. À la demande, enfin, quelque chose comme ça. Elle est plus libre dans le rapport à ce que tu développais, mais elle rencontre une autre difficulté. Enfin... Narcissisme du désir. Je me demande... Je voudrais
chercher, mais moi, je voulais peut-être propos, sexualité féminine. Avoir l'avis féminin sur justement... ce que Lacan dit quand la femme se sent au centre du désir, c'est là qu'elle fuit vraiment. Je crois qu'on a abordé ça un peu rapidement, mais peut-être un avis féminin sur cette question. Qu'est-ce que vous en pensez l'une et l'autre?
Oui. Moi, je pensais à cette phrase, en fait. Et au fond, je dirais l'hystérique plutôt que la femme. C'est-à-dire l'hystérique fouille quand elle se sent être l'objet de désir de l'homme. Et parce que justement, il me semble que, comme la femme, ce que tu dis, Yves, le narcissisme de désir, ça me paraît génial en fait. Je ne sais pas où c'est, mais.
C'est la grande.
Non, mais c'est très chouette parce que, en fait, il me semble que c'est justement parce que, d'une certaine façon, l'être de la femme dépend du désir de l'autre, que être l'objet de l'autre les donne un être, c'est-à-dire il faut supporter cet être-là, il faut pouvoir supporter avoir un être, chose qui ne va pas de soi, d'une certaine façon. Je ne sais pas si ça te répond. être l'objet du désir de l'autre, je l'entends comme finalement être. Que pour la femme, ça ne va pas de soi, il me semble. Mais aussi, je pense, je ne sais pas si je peux ajouter, qu'il y a la question aussi que j'étais sensible à la question de l'être, de l'avoir par rapport au désir. C'est-à-dire que l'homme cherche ce qui manque à la femme, disons-le comme ça, mais aussi il désire ce que la femme a, ou pas. C'est-à-dire dans le registre de l'avoir. Et donc, quand, je ne sais pas si tu es d'accord, hein, mais donc quand la femme se sent être l'objet du désir d'un homme, au fond, ça la met un morceau, d'une certaine façon. Ça la met un morceau.
Un morceau.
Un morceau. Morceau.
Tout à l'heure, c'est que dans le fond, pour être désiré par un homme, il faut qu'une femme s'invente un manque. Mm. C'est très joli de s'inventer un manque. Hein? Mais enfin, en général, quand on s'invente quelque chose, on en est dupe. donc, quand cet art manque, eh bien, on se retrouve avec un nouveau morceau, mais un morceau manquant, ça peut être parfois difficilement supportable. Hein? On se met à manquer alors qu'on ne manquait de rien. Ça va pas nécessairement mieux. Hein? Et en tout cas, donc, c'est le désir de l'homme. Étant donné ce qu'on vient de découvrir aujourd'hui, somme toute, à quel point il peut être agressif, comme il faut qu'il retrouve sa propre castration pour essayer de la surmonter, eh bien, vous voyez ce que la pauvre créature doit supporter. Mm. Hein? C'est compliqué. D'ailleurs, Lacan dit quelque part, me rappelle à ça à l'instant, manifestement, c'est dans un endroit des écrits où il parle de lui, où il a vraiment là eu un désir, quelque chose de vraiment formidable. C'était dans un bal masqué, où il a rencontré une femme, justement, qui avait, dit-il, un mignon postiche. Hmm? Donc un faux phallus. Hein? Et de rendre compte que le phallus était faux, etc., il dit que ça, vous m'en direz des nouvelles, dit-il. Eh bien, ça, c'était vraiment un désir tout à fait, pour lui, tout à fait transcendant, voire vraiment rencontrer le manque.
Mais parce hein? que...
Et donc, là, forcément... voilà, donc on continue à gloser là-dessus.
Parce que dans la mascarade, quand je disais faire semblant de manquer quelque chose, c'est parce que la mascarade, c'est un voile. Et s'il y a quelque chose qui fait exister la main, c'est le voile. Parce qu'on voile, on imagine qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas. Le voile fait exister la main. Les manques. Et donc la mascarade, dans le sens du voile, pourrait être quelque chose qui fait semblant de manquer quelque chose.
Mais je propose qu'on remercie chaleureusement Laura et Yves et on se retrouve dans un mois.